Léon Tolstoï, Albert. Cinq riches jeunes gens arrivaient vers 3 heures du matin pour s'amuser dans un bal de Pétersbourg. On buvait beaucoup de champagne, la plupart des hommes étaient jeunes, les filles jolies, le piano et le violon jouaient polka sur polka, les danses et le bruit ne cessaient pas une minute. Mais un ennui planait, une gêne. Il semblait à chacun, on ne sait pourquoi, comme il arrive souvent, que tout cela n'était point ce qu'il fallait. Quelquefois, elle se forçait à rire. Mais cette gaieté factice était encore pire que l'ennui. L'un des cinq jeunes gens, plus mécontent et de soi et des autres, et de toute la fête, se leva avec un sentiment de dégoût, prit son chapeau, et sortit dans l'intention de disparaître sans être remarqué. Dans l'antichambre, personne, mais dans la pièce voisine, derrière la porte, il entendit deux voix qui discutaient. Le jeune homme s'arrêta et se mit à écouter. « On peut pas, il y a du monde !» disait une voix de femme. « Laissez-moi entrer, je vous en prie, je ne ferai rien !» murmurait une suppliante voix d'homme. « Mais je ne vous laisserai pas entrer sans la permission de madame !» répondait la femme. « Où allez-vous? Mais quel homme êtes-vous ? » La porte s'ouvrit et, sur le seuil, apparut une étrange silhouette d'homme. En apercevant l'invité, la servante lâcha prise, et l'étrange silhouette, après un timide salut, entra dans le salon en vacillant sur ses jambes ployées. C'était un homme de haute taille, avec un dos étriqué et voûté et de longs cheveux en désordre. Il était vêtu d'un pardessus court et d'étroits pantalons déchirés sur des souliers grossiers et non cirés. Une cravate tordue en corde se nouait sur son long cou blanc. La chemise sale débordait des manches sur les mains maigres. Mais en dépit de ce corps éthique, le visage était tendre et blanc, et même l'incarnat jouait sur les joues entre la barbe rare et noire et les favoris. Les cheveux non peignés, rejetés en arrière, découvraient un front pâle extrêmement net. Les yeux de couleur sombre, les yeux fatigués, regardaient en avant avec un air tendre, suppliant et grave. Leur expression s'harmonisait à merveille avec celle des lèvres, fraîches, relevées au coin et surmontées d'une moustache rare comme la barbe. Après avoir fait quelques pas, il s'arrêta, se tourna vers le jeune homme et sourit. Il sourit comme avec effort, mais quand le sourire eut éclairé son visage, le jeune homme, sans savoir lui-même pourquoi, sourit aussi. « Qui est-ce » demanda-t-il en chuchotant à la servante, quand ce singulier personnage eut pénétré dans le salon où s'entendaient les danses. « Oh, c'est un musicien du théâtre. Il est fou !» répondit la servante. « Il vient quelquefois chez ma maîtresse. »« Où as-tu passé, Delesoff ? » cria-t-on à ce moment du salon. Le jeune homme, qu'on appelait Delesoff, retourna dans le salon. Le musicien se tenait debout près de la porte, et les yeux fixés sur les danseurs, témoignaient par son sourire, ses regards, ses trépignements, la joie qu'excitait en lui ce spectacle. « Eh bien, allez-vous aussi danser ?» lui dit l'un des invités. Le musicien salua et jeta sur la maîtresse de maison un coup d'œil interrogateur. « Mais allez, allez, puisque l'on vous y invite !» intervint celle-ci. Les membres maigres et débiles du musicien entrèrent tout à coup en mouvement. Clignant des yeux, souriant, étendant les bras, il s'enfuit d'un pas lourd et gauche, sauté dans le salon. Au milieu du quadrille, un joyeux officier qui dansait avec grâce et animation heurta du dos inopinément le musicien. Les jambes faibles et fatiguées ne conservèrent point l'équilibre, et le musicien, après avoir fait quelques pas en chancelant, tomba de tout son haut par terre. Malgré le son aigre sec produit par la chute, presque tous se mirent à rire dans le premier moment. Mais le musicien ne se relevait pas. Les invités se turent. Le piano lui-même s'arrêta de jouer, et Delesoff, avec la maîtresse de maison, s'empressèrent les premiers d'accourir auprès de l'homme qui venait de tomber. Il était couché sur le coude et attaché sur le parquet des yeux sans regard. Quand on l'eut relevé et installé sur une chaise, d'un geste rapide de sa main décharnée, il écarta ses cheveux de son front et se mit à sourire sans rien répondre aux questions. « Oh, monsieur Albert, monsieur Albert !» disait la maîtresse de maison, « vous êtes-vous fait mal ?»« Ou ?»« Voilà, je disais bien que vous ne deviez pas danser. Il est si faible !» continua-t-elle en s'adressant à ses invités. « Il a déjà de la peine à marcher, il ne devrait pas danser. »«
Qui est-ce » demandait-on à la maîtresse de maison.
« Oh, c'est un brave homme, un artiste. C'est un très brave garçon, mais dans un état pitoyable, comme vous voyez. » Elle disait cela sans être gênée par la présence du musicien.
Celui-ci revint à lui, et comme si quelque chose l'eût épouvanté, il se tordait et repoussait ce qui l'entourait.
« Oh non, tout cela n'est rien, » dit-il soudain, en faisant pour se lever de sa chaise un effort visible. Et pour prouver qu'il n'avait pas de mal, il gagna le milieu du salon et essaya de danser, mais chancela et serait tombé de nouveau si on l'eût soutenu. Tous étaient confondus, tous se taisèrent le regardant. Le regard du musicien s'éteignit de nouveau, et lui, oubliant visiblement tout le monde, se frottait le genou avec sa main. Tout à coup, il releva la tête, avança une jambe qui tremblait, écarta ses cheveux avec le même geste que tantôt, et s'approchant du violoniste, lui prit le violon. « Mais tout cela n'est rien, » répéta-t-il encore une fois en élevant l'instrument. « Messieurs, faisons-nous un peu de musique ?»«
Quel étrange personnage !» se disaient les invités.
« Ah, peut-être un grand talent se cache-t-il dans ce malheureux être ?» fit l'un d'eux.
« Oui, malheureux, bien malheureux !» ajouta un autre.
« Quel beau visage, il a quelque chose d'extraordinaire !» dit Delessoff.
« Nous allons voir. »
À ce moment, Albert, sans prêter la moindre attention à personne, ayant serré le violon contre son épaule, s'avança lentement le long du piano et accorda son instrument. Ses lèvres prirent une expression impassible. On ne voyait pas ses yeux, mais son dos étroit et décharné, son long cou blanc, ses jambes ployées et sa tête noire chevelue offraient un spectacle bizarre, mais nullement ridicule. Après avoir accordé le violon, il en tira vivement quelques notes, puis relevant la tête, il s'adressa au pianiste qui se préparait à l'accompagner. « Mélancolie, c'est dur !» lui dit-il avec un geste impérieux. Ensuite, comme pour demander pardon de son geste impérieux, il sourit avec douceur et, toujours souriant, il regarda le public. Après avoir rejeté ses cheveux en arrière avec la main qui tenait l'archet, Albert s'arrêta devant le coin du piano et d'un mouvement aisé promena l'archet sur les cordes. Un son pur et harmonieux s'épandit dans le salon et il se vit d'un silence absolu. Les notes du thème s'égrenèrent librement, élégamment, après la première, illuminant soudain l'univers intime de chaque auditeur d'une lumière indiciblement claire et apaisante. Pas une note fausse ou criarde ne troublait le recueillement des assistants. Tous les sons éclataient, purs, élégants, larges, chacun en suivait le développement dans un silence profond, avec le frémissement de l'espérance. De cet état d'ennui, de cette distraction bruyante, de ce sommeil de l'âme où tous ces gens se trouvaient plongés, ils se voyaient brusquement transportés dans un autre monde, tout à fait oublié par eux. Tantôt s'évoquait dans leur âme le sentiment d'une contemplation sereine, tantôt le souvenir passionné de quelque chose d'heureux, tantôt le mirage du pouvoir et de la gloire, tantôt l'humilité, l'ivresse d'un amour incontesté, la mélancolie. Les sons, tour à tour tristement tendres et impétueusement désespérés, coulaient et coulaient l'un après l'autre avec tant de charme, de force et d'inconscience que c'était plus des sons qu'on entendait,
mais un ruisseau qui inondait l'âme de chacun, un merveilleux ruisseau de poésie, dès longtemps connu, mais exprimé pour la première fois. Albert allait grandissant toujours à chaque note. Il n'était plus du tout étrange ou bizarre. Appuyant son menton sur son instrument, dont il écoutait les sons avec une attention passionnée, il remuait ses pieds convulsivement. Tantôt il se redressait de toute sa taille, tantôt il courbait lentement son dos. Le bras gauche, infléchi et tendu, semblait figé dans sa position, sauf les contractions des doigts, décharnés, touchant nerveusement les cordes. Le bras droit se mouvait avec aisance, élégamment et sans à-coup. Son visage brillait d'une joie continue et extatique. Ses yeux étincelaient d'un feu clair, sec. Ses narines se gonflaient, ses lèvres rouges s'ouvraient, épanouies par le plaisir. Parfois, sa tête se baissait plus près du violon. Ses yeux se fermaient et son visage, que les cheveux couvraient à moitié, était illuminé par un sourire de suave béatitude. Parfois, il se redressait et avançait la jambe, et son front pur, le regard brillant qu'il promenait dans le salon, réfléchissait l'orgueil, la grandeur, la conscience de son pouvoir. Il arriva au pianiste de se tromper et de plaquer un accord faux. Les traits du musicien, toute sa physionomie, exprimèrent la souffrance physique. Il s'arrêta une seconde, et dans un mot la colère, l'excès de colère enfantine, il frappa du pied et cria « Molle, c'est molle !» Le pianiste se reprit. Albert ferma les yeux, sourit, et oubliant de nouveau lui-même, les autres et l'univers entier, il s'abandonna à son jeu avec ivresse. Tous ceux qui écoutaient Albert observaient un humble silence et ne semblaient vivre et respirer que par les sons de son violon. Le joyeux officier était assis immobile sur une chaise près de la fenêtre. Il fixait sur le parquet un regard privé de vie et ne reprenait haleine lourdement qu'à de rares intervalles. Les jeunes filles, dans un profond silence, demeuraient assises le long des murs en se lançant de temps à autre des coups d'œil où l'admiration se mêlait à la perplexité. Le visage, plein et souriant de la maîtresse de maison, s'épanouissait d'extase. Le pianiste attachait ses yeux sur le visage d'Albert et, tourmenté par la peur de se tromper, peur que révélait toute sa figure allongée, il l'accompagnait. L'un des invités, qui avait bu plus que les autres, était couché sur le sofa, à la face dans les coussins, et se forçait à ne pas bouger, de peur de montrer son trouble. Delassov éprouvait un sentiment inaccoutumé, un cercle glacé, tour à tour, s'étrécissant et s'élargissant, lui serrait la tête. Les racines de ses cheveux devenaient sensibles. Un frisson lui passait dans le haut du dos. Quelque chose lui étreignait la gorge, lui piquait les narines et le palais, comme avec de très fines aiguilles, et des larmes mouillaient insensiblement ses joues. Il se secouait et essayait de les maîtriser, de les essuyer, mais toujours de nouveaux pleurs naissaient et coulaient sur son visage. Par un étrange effet de ses impressions, les premières notes du violon d'Albert avaient transporté Delassov à l'époque de sa première jeunesse. Lui, déjà plus bien jeune, las de la vie, un homme épuisé, il se sentait brusquement redevenu un adolescent de 17 ans, beau, naïf, heureux, sans savoir de quoi. Il se ressouvenait de son premier amour pour sa cousine, robe couleur de rose. Il se rappelait l'ardeur, le charme incompréhensible d'un baiser fortuit et l'enchantement, le mystère impénétré de la nature qui l'entourait alors. Son imagination, retournée en arrière, la lui montrait, elle, dans un brouillard d'espoir indécis, de désirs incompréhensibles, d'infaillibles certitudes en la possibilité d'un impossible bonheur. Toutes les minutes inappréciables de ce temps-là s'évoquaient l'une après l'autre devant lui, non point comme les instants insignifiants d'un présent qui fuit, mais comme des images qui lui montraient et lui reprochaient son plessé. Il les contemplait avec volupté et pleurait. Il pleurait non parce que ce temps-là était passé, qu'il aurait pu employer mieux. Si ce temps-là lui était rendu, il n'eût point pris sur lui de l'employer mieux. Mais il pleurait simplement parce que ce temps-là était passé et ne reviendrait jamais plus. Les souvenirs naissaient d'eux-mêmes, tandis que le violon d'Albert disait toujours la même chose. Il disait « Pour toi, il est passé pour toujours, le temps de la force, de l'amour et du bonheur. Il est passé et plus jamais il ne reviendra. Pleure-le, verse sur lui toutes tes larmes, meurs en le pleurant. C'est là le plus grand, le seul bonheur qui te reste. » Vers la fin de la dernière variation, le visage d'Albert était tout rouge. Ses yeux étincelaient et de grosses gouttes de sueur ruisselaient sur ses joues. Les veines de son front étaient gonflées. Tout son corps frémissait de plus en plus. Ses lèvres pâles ne se refermaient plus et sa physionomie entière exprimait comme une avidité de jouissance. Avec un grand geste de tout son corps et secouant ses cheveux, il abaissa son violon et avec un sourire de grandeur fière et de bonheur, il jeta un coup d'œil sur les assistants. Puis son dos se voûta, sa tête retomba, ses lèvres se plissèrent, ses yeux s'éteignirent et comme s'il eut honte de lui-même, promenant autour de lui de timides regards et vacillant sur ses jambes, il passa dans la pièce voisine. Quelque chose d'étrange se passait dans l'âme de tous les assistants. Quelque chose d'étrange se sentait dans le silence profond qui suivit la sortie d'Albert. Il semblait que chacun voulût et ne sût pas dire ce que tout cela signifiait. Que signifiait ce salon étincelant et chaud, et ces femmes brillantes, et l'aurore pointant derrière les vitres des fenêtres, et ce sang en mouvement, et cette pure impression des sons évanouis? Mais aucun n'essayait même pas d'approfondir. Presque tous, au contraire, se sentant impuissants à pénétrer ce qui suscitait en eux des sensations nouvelles, s'en irritaient. « Mais il joue extrêmement bien !» dit l'officier. « Merveilleusement !» répondit Delessoff en s'essuyant furtivement les joues de sa manche. « Mais il est temps de partir, messieurs !» dit en se remettant un peu celui qui était étendu sur le sofa. « Faudrait lui donner quelque chose, messieurs, cotisons-nous » Pendant ce temps, Albert était assis tout seul dans la pièce voisine, sur un divan. Les coudes appuyés sur ses genoux décharnés, il promenait sur son visage ses mains salies et couvertes de sueur, lissait ses cheveux et se souriait à lui-même avec bonheur. La quête fut abondante et Delessoff se chargea de la lui remettre. En outre, il vint à l'idée, à Delessoff, que cette musique avait si vivement, si étrangement remué, de faire du bien à cet homme. Il lui vint l'idée de le prendre chez lui, de le vêtir, de lui trouver un emploi, bref, de l'arracher à sa pénible situation. « Eh bien, vous êtes fatigué !» lui demanda Delessoff en s'approchant de lui. Albert sourit. « Mais vous avez un véritable talent !» Vous devriez vous occuper sérieusement de musique, jouer en public. « Oh, je voudrais boire quelque chose, » dit Albert, comme en se réveillant. Delessoff apporta du vin et le musicien en but deux verres avec avidité. « Quel bon vin » fit-il. « Mélancolie, mais quelle chose exquise !» dit Delessoff. « Oh, oui, » répondit Albert en souriant. « Mais excusez-moi, je ne sais pas avec qui j'ai l'honneur de parler. Peut-être êtes-vous un comte ou un prince. Ne pourriez-vous pas me prêter un peu d'argent ?» Il se tut un moment. « Je n'ai rien, moi. Je suis un pauvre homme. Je ne pourrais pas vous rendre. » Delessoff rougit et prit un air confus. Il remit vivement au musicien l'argent recueilli. « Je vous remercie beaucoup, » dit Albert en prenant l'argent. « Maintenant, nous allons faire de la musique. Je vous jouerai tout ce que vous voudrez. Je désirais seulement boire quelque chose. Boire !» ajouta-t-il en se levant. Delessoff retourna lui chercher du vin et le pria de s'asseoir près de lui. Ben, excusez-moi si je suis franc avec vous, lui dit Delessov. Votre talent m'a intéressé. Il me semble que vous trouverez dans une situation malheureuse. Albert regarda tour à tour Delessov et la maîtresse de maison qui venait d'entrer dans la pièce. Permettez-moi de vous offrir mes services, continua Delessov. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous serai très obligé de venir demeurer chez moi pendant quelque temps. Je vis seul et peut-être pourrais-je vous être utile. Albert sourit et ne répondit pas. Mais pourquoi donc ne remerciez-vous pas? Dit la maîtresse de maison. C'est manifestement un bienfait pour vous. Seulement, poursuivit-il, elle, en s'adressant à Delessov avec un hochement de tête, je ne vous le conseillerai pas. Je vous remercie beaucoup, dit Albert en serrant dans ses mains moites la main de Delessov. Mais à présent, allons faire de la musique, je vous prie. Mais déjà, les autres invités se préparaient à partir et, malgré les prières d'Albert, ils sortirent dans l'antichambre. Albert dit adieu à la maîtresse de maison, mit un chapeau usé à large bord et une vieille almaviva d'été qui composait tout son vêtement d'hiver et sortit avec Delessov sur le perron. Lorsque Delessov fut monté dans sa voiture avec sa nouvelle connaissance et qu'il sentit cette désagréable odeur de boisson et de malpropreté dont le musicien était comme imprégné, il commença à se repentir de son action et à regretter sa puérile bonté d'âme et son imprudence. Et de plus, tout ce que disait Albert était si sot, si trivial, et il devenait tout d'un coup si abominablement ivre au grand air, que Delessov se sentait mal à l'aise. « Que vais-je faire de lui ?» pensait-il. Au bout d'un quart d'heure de chemin, Albert se tut. Son chapeau roula entre ses pieds, il se jeta dans un coin de la voiture et se mit à ronfler. Les roues criaient sur la neige glacée. La faible clarté de l'aurore perçait à peine les vitres gelées des portières. Delessov regarda son voisin. Son long corps recouvert du manteau gisait sans vie auprès de lui. Il lui semblait avoir remué sur ce corps une longue figure avec un grand nez de couleur sombre. Mais en regardant plus attentivement, il reconnut que ce qu'il prenait pour le nez et le visage, c'était les cheveux, et que le vrai visage était plus bas. Il se pencha et examina les traits d'Albert. Alors la beauté du front et de la bouche sereine le frappa de nouveau. Sous l'influence de ses nerfs fatigués, de l'insomnie et de la musique entendue, Delessov, en regardant ce visage, se revoyait de nouveau transporté dans ce monde heureux où il était entré pour un moment cette nuit-là. De nouveau, il se remémorait l'époque heureuse et généreuse de sa jeunesse et cessait de regretter son action. En ce moment, il aimait Albert sincèrement et ardemment, et il se sentait fermement décidé à lui faire du bien. Le lendemain matin, quand on le réveilla pour aller à son service, Delessov aperçut autour de lui, avec un étonnement désagréable, son vieux paravent, son vieux domestique et sa montre sur la table de nuit. Mais que m'attendais-je donc à voir en dehors de ce qui m'entoure toujours? Se demanda-t-il à lui-même. Et ici, il se rappela les yeux noirs et le sourire heureux du musicien. Le motif de mélancolie et toute l'étrange nuit derrière lui revinrent brusquement à l'esprit. Cependant, il n'avait pas le temps de se demander s'il avait bien ou mal fait de recueillir chez lui le musicien. Tout en s'habillant, il arrangeait le plan de sa journée, prenait ses papiers, donna les ordres nécessaires à la maison, puis vivement il mit son manteau et ses galoches. En passant devant la salle à manger, il jeta un coup d'œil par la porte. Albert, le visage enfoncé dans les coussins, les membres étalés de côté et d'autre, la chemise sale et déchirée, dormait d'un profond sommeil sur le divan de cuir où il avait été déposé inerte la veille au soir. Malgré lui, Delassov se sentit fraîchement impressionné. « Va, je t'en prie de ma part, chez Borusovski. Lui demander son violon pour 2 ou 3 jours, dit-il à son domestique. Et quand il s'éveillera, sers-lui du café. Donne-lui de mon linge et quelques-uns de mes vieux effets. Contente-le en tout, je t'en prie. » En rentrant chez lui assez tard dans la soirée, Delassov, à grand étonnement, ne trouva plus Albert. « Mais où donc est-il ? » demanda-t-il à son domestique. « Ben, aussitôt après son dîner, il est parti, » répondit l'autre. « Il a pris le violon et il est parti. Il a promis de revenir au bout d'une heure. Mais il n'est pas encore rentré. »« Ta, c'est fâcheux, » dit Delassov. « Mais pourquoi l'as-tu laissé partir, Zahar ?» Zahar était un domestique de Pétersbourg qui servait Delassov depuis 8 ans déjà. Delassov, comme un célibataire seul, lui confiait tout naturellement ses projets et il aimait à connaître l'opinion de son serviteur sur chacun de ses projets. « Mais comment aurais-je osé le retenir ?» répondit Zahar en jouant avec le petit cachet de sa montre. « Si vous m'aviez dit, Dimitri Ivanovitch, de le retenir, j'aurais pu l'amuser à la maison, mais vous m'avez dit que de le nipper. » « Ah, c'est fâcheux. Eh bien, mais qu'a-t-il fait ici pendant mon absence ?» Zahar sourit. C'est exact, on peut l'appeler artiste, Dimitri Ivanovitch. Dès qu'il s'est réveillé, il a demandé du vin de Madère. Puis il a passé son temps avec la cuisinière et le domestique de notre voisin. Il est si drôle. Cependant, il a un bon caractère. Je lui ai donné du thé, je lui ai servi le dîner. Il n'a rien voulu prendre seul, il m'a toujours invité. Et comme il joue du violon. Oh non, il y a peu d'artistes qui le vaillent, même chez Lisler. On peut bien garder un pareil homme. Et il nous a joué en aval de notre mère Volga, absolument, comme un homme qui pleure. Très bien, même trop bien. De tous les étages, on est descendu chez nous dans l'antichambre pour écouter cette musique. « Eh bien, l'as-tu habillé ?» interrompit le barine. « Ben oui, je lui ai donné votre chemise de nuit et je lui ai passé mon par-dessus. On peut bien secourir un homme comme lui. C'est un homme charmant. » Sahar sourit et ajouta. « Il m'a demandé tout le temps quel grade vous aviez, si vous aviez de hautes relations et combien vous possédiez d'âmes de paysans. Bien, mais il faudrait maintenant le retrouver et tout d'abord ne rien lui donner à boire. Autrement, il lui arrivera encore quelque chose de pire. » « C'est vrai, » interrompit Zahar, « il n'a pas cela, je vois, une santé bien forte. Il y avait autrefois chez nous un intendant. Bon, » Delassov, qui savait déjà depuis longtemps l'histoire de l'intendant, un ivrogne renforcé ne la lui a pas terminée. Et après lui avoir ordonné de tout préparer pour la nuit, il l'envoya retrouver et ramener Albert. Il se mit au lit et souffla sa bougie. Mais de longtemps, il ne put s'endormir. Toujours, il songeait aux musiciens. Quoique tout cela puisse paraître singulier à nombre de mes connaissances, pensait-il, on fait si rarement quelque chose de désintéressé qu'on doit remercier Dieu de nous en donner l'occasion. Et je ne laisserai pas échapper celle-ci, je ferai tout. Je ferai absolument tout ce que je peux pour lui venir en aide. Peut-être n'est-ce pas du tout un fou, peut-être simplement un homme adonné à la boisson. Cela ne me coûtera pas grand-chose. Ou l'un est rassasié, deux peuvent l'être. Qui demeure d'abord chez moi, puis nous lui trouverons quelque place, un concert, nous le relèverons, et nous verrons ensuite. Un sentiment agréable de satisfaction intime s'empara de lui à ce raisonnement. « Vraiment, je suis pas tout à fait un mauvais homme. Non, je suis pas tout à fait un mauvais homme, » pensait-il. « Je suis même un homme excellent, quand je me compare aux autres. » Il commençait enfin à s'endormir, quand le bruit de la porte qui s'ouvrait et des pas dans la chambre le tirèrent de son assoupissement. « Eh bien, je le traiterai un peu plus sévèrement, » pensa-t-il. « Il vaut mieux ainsi, et je dois m'y résoudre. » Il sonna. « Quoi ? Est-il revenu ? Demanda-t-il à Zahar qui venait d'entrer. « Oh, c'est un malheureux, Dimitri Ivanovitch, » dit Zahar en secouant la tête et en fermant les yeux. « Qu'y a-t-il ? Il est ivre ? Très faible. Et le violon l'a-t-il ? Oh, il l'a apporté, la maîtresse de la maison l'a remis. Eh bien, je t'en prie, ne le laisse pas pénétrer en ce moment dans ma chambre. Couche-le et demain ne me laisse sortir sous aucun prétexte. » Mais Zahar n'était pas encore dehors. Qu'Albert entrait déjà dans la chambre. « Est-ce que vous voulez déjà dormir ?» demanda Albert en souriant. « Moi, j'étais là, chez Anna Ivanovna. J'ai passé très agréablement la soirée. On a fait de la musique, on a ri. La compagnie était charmante. Permettez-moi de boire un verre de quelque chose, » ajouta-t-il en prenant une carafe qui se trouvait sur la table de nuit. « Seulement, pas de l'eau. » Albert avait le même air que la veille, même sourire des yeux et des lèvres, même front clair et inspiré, même faiblesse des membres. Le par-dessus de Zahar lui allait bien, et le col propre, large, sans empois, de la chemise de nuit, retombait pittoresquement autour de son cou blanc et mince, et lui donnait quelque chose d'enfantin et d'innocent. Il s'assit sur le lit de Delessoff, et sans parler, le regarda en souriant d'un air de plaisir et de reconnaissance. Delessoff plongea ses yeux dans les yeux d'Albert et se sentit retomber tout à coup sous le charme de son sourire. Il n'avait plus envie de dormir, il oubliait son devoir d'être sévère, et il voulait au contraire se délecter, entendre de la musique, et fut jusqu'au matin causer amicalement avec Albert. Il ordonna à Zahar d'apporter une bouteille de vin, des cigarettes et le violon. « Voilà qui est très bien, » dit Albert. « Il est encore tôt. Nous allons faire de la musique. Je jouerai tant que vous voudrez. » Zahar apporta avec un plaisir visible une bouteille de Lafitte, deux verres, des cigarettes, de tabac doux pour Albert et le violon. Mais au lieu d'aller se coucher, comme le mari ne lui avait recommandé, il alluma un cigare et s'assit dans la pièce voisine. « Causons un peu, ce sera mieux, » dit Delessoff au musicien qui voulait tout de suite prendre le violon. Albert s'assit docilement sur le lit et sourit de nouveau joyeusement. « Ah oui, » dit-il en se frappant subitement le front de la main et en prenant une expression d'inquiète curiosité. L'expression de son visage précédait toujours ce qu'il allait dire. « Permettez-moi de vous demander... » Il s'interrompit un moment. « Ce monsieur qui était là hier avec vous, vous l'appeliez N. Ce n'est-il pas le fils du célèbre N ?»« Oui, son propre fils, » répondit Delessoff, sans comprendre aucunement en quoi cela pouvait intéresser Albert. « Mais oui, » dit-il en souriant d'aise, « j'ai remarqué tout de suite dans ses manières... quelque chose qui trahit l'aristocratie. J'aime les aristocrates. Un aristocrate a quelque chose de charmant et d'élégant. Et cet officier qui dansait si bien, poursuivit-il, il me plaît aussi beaucoup. Celui qui avait l'air si gai, si noble, je crois que c'est l'aide de camp de NN. Lequel ? Demanda Delessoff. « Ah, celui qui m'a heurté quand nous dansions, ça doit être un bon garçon. »« Non, 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 c'est un homme frivole, » répondit Delessoff. « Ah, que non pas !» protesta Albert avec chaleur. « Il a quelque chose de très, très séduisant. »« C'est un bon musicien, » ajouta-t-il. « Il a joué un air d'opéra. Personne ne m'a plu à ce point depuis longtemps. » « Oui, il joue assez bien, mais je n'aime pas son jeu, » dit Delessoff, désireux d'amener son interlocuteur sur le terrain de la musique. « Il ne comprend pas la musique classique. Donizetti et Bellini, c'est pas de la musique. Je crois que vous êtes de cet avis. » « Oh non, 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 excusez-moi, » commença Albert. L'ancienne musique est une musique et la nouvelle en est une autre. Et la nouvelle offre des beautés extraordinaires. Et la somnambule, et le final de Lucia, et Chopin, et Robert, oh, je pense souvent. » Il s'interrompit, recueillant visiblement ses pensées. Et si Beethoven vivait encore, mais il pleurait de joie en entendant la somnambule. Partout des beautés. J'ai entendu pour la première fois la somnambule lorsque Viardot et Rubini étaient ici. Voici ce que c'était, dit-il, les yeux brillants et en faisant avec ses deux mains le geste d'arracher quelque chose de sa poitrine. Encore un peu, on eût pu supporter cela. Eh bien, et à présent, comment trouvez-vous l'opéra ? Demanda Delessoff. Oh, la motion est bonne, très bonne, répondit-il. Elle était totalement gracieuse, mais elle ne touche point ici, dit-il en désignant sa poitrine creuse. Ce qu'il faut à une cantatrice, c'est la passion, or elle ne l'a pas. Elle charme et ne bouleverse pas. Et la blanche ? Oh, j'ai entendu jadis à Paris, dans le barbier de Séville. Il était alors unique. Mais à présent, il est vieux. Il ne peut plus être un grand artiste. Il est vieux. Mais qu'importe s'il est vieux, il est bon tout de même dans les morceaux d'ensemble, dit Delessoff, toujours en parlant de la blâche. Comment s'il est vieux? Répliqua sévèrement Albert. Il ne doit pas être vieux. Un artiste ne doit pas être vieux. L'art exige beaucoup de qualités. Mais la principale, c'est le feu, dit-il, les yeux étincelants et les bras levés en l'air. Et en effet, une intense flamme intérieure fulgurait dans toute sa face. « Ah, mon Dieu !» fit-il soudain. « Vous ne connaissez pas Petrov, le peintre ?»« Non, je ne le connais pas, » répondit Delessoff en souriant. « Ah, oh, comme je voudrais que vous fissiez sa connaissance. Vous auriez plaisir à causer avec lui. » Comme il comprend l'art, lui aussi. Avant, nous nous rencontrions souvent chez Anna Ivanovna, mais à présent, elle s'est fâchée avec lui. Et moi, je désirais vivement que vous fissiez sa connaissance. C'est un grand, grand talent. Eh bien, quoi, il peint des tableaux ? Interrogea Delessoff. Je ne sais pas. Non, non, il me semble, mais il a été peintre de l'Académie. Quelle pensée il a ! Quand il cause, parfois, c'est admirable. Ah, Petrov est un grand talent. Seulement, il mène joyeuse vie, voilà. C'est dommage, ajouta Albert avec un sourire. Après quoi, il se leva du lit, prit le violon et se mit à l'accorder. Y a-t-il longtemps que vous avez été à l'opéra ? Lui demanda Delessoff. Albert jeta un coup d'œil derrière lui et soupira. Ah, « Je ne le puis plus !» fit-il en se prenant la tête. Il sera assis d'à côté de Delessoff. « Je vais vous dire, » dit-il, presque en chuchotant. « Je ne puis plus y aller, je ne puis plus y jouer, je n'ai rien, rien. Je n'ai ni habit, ni logis, ni violon. Une vie de malheur, une vie de malheur, une vie de malheur, » répéta-t-il plusieurs fois. Et pourquoi y aller, pourquoi ? Il ne le faut pas, dit-il en souriant. Oh, Don Juan ! Et il se frappait la tête. Eh bien, nous irons un jour ensemble, dit Delessoff. Albert, sans répondre, se leva brusquement, saisit le violon et commença à jouer la finale du premier acte de Don Juan, en exposant en termes sommaires et précis le sujet de l'opéra. Les cheveux de Delessoff se dressèrent lorsqu'Albert exprima les accents du commandeur mourant. « Non, je ne puis pas jouer aujourd'hui, » dit-il en quittant son violon. « J'ai bu beaucoup. » Mais aussitôt après, il s'approcha de la table, se versa un plein verre de vin, le vida d'un trait, et vint de nouveau se rasseoir sur le lit à côté de Delessoff. Delessoff attachait ses yeux sur Albert. Albert souriait à de rares intervalles. Delessoff aussi. Ils se taisaient tous les deux. Mais entre eux, par le regard et le sourire, une sympathie naissait, de plus en plus étroite. Delessoff sentait qu'il aimait de plus en plus cet homme, et il éprouvait une joie incompréhensible. « Avez-vous été amoureux ? » demanda-t-il brusquement. Albert demeura pensif pendant quelques secondes. Puis son visage s'éclaira d'un sourire triste. Il se pencha sur Delessoff et le regarda attentivement dans les yeux. « Pourquoi m'avez-vous demandé cela ? » dit-il à voix basse. « Mais je vous dirai cela. Vous m'avez conquis, ajouta-t-il en regardant autour de lui. « Je ne vous tromperai pas. Je vous raconterai tout comme cela s'est passé, du commencement à la fin. » Il s'arrêta et ses yeux prirent une expression hagarde et farouche. « Vous savez que je suis faible d'esprit, » fit-il soudain. « Oui, oui, » poursuivit-il. « Anna Ivanovna vous l'aura sans doute raconté. Elle dit à tout le monde que je suis fou. » Ce n'est pas vrai, elle dit cela pour plaisanter. C'est une bonne personne, mais moi, depuis un certain temps, je ne suis pas tout à fait sain d'esprit. Albert se tut de nouveau et attacha sur la porte obscure des yeux fixes, largement ouverts. Vous m'avez demandé si j'étais amoureux. Oui, j'ai été amoureux, murmura-t-il en relevant ses sourcils. Oh, ça se passait voilà bien longtemps. À l'époque où j'avais encore ma place au théâtre. J'y faisais le second violon, et elle arrivait dans une baignoire de gauche. Albert se leva et se coucha sur l'oreille de Delessoff. « Non, non, pourquoi la nommer ? » dit-il. « Vous la connaissez probablement. Tout le monde la connaît. » Je me taisais, je la regardais seulement. Je savais que j'étais moi un pauvre artiste, tandis qu'elle... Une dame de l'aristocratie, oh, je le savais très bien. Et je me bornais à la regarder, sans penser à rien. Albert devint songeur. Il rassemblait ses souvenirs. Et comme cela arriva, je ne me rappelle pas. Mais une fois, on m'appela pour l'accompagner sur mon violon. Eh bien, que suis-je ? « Un pauvre artiste, » dit-il en secouant la tête et en souriant. « Mais non, je ne saurais le raconter, je ne saurais, » ajouta-t-il en reprenant la tête. « Comme j'étais heureux !»« Eh bien, vous alliez souvent chez elle ?» interrogea Delessoff. « Oh, une fois seulement. Mais c'est moi-même qui fus coupable. Je devins fou. Moi, je suis un pauvre artiste. » Elle est une dame de l'aristocratie. J'aurais dû rien lui dire, mais je devins fou et je fis des sottises. Dès lors, tout fut fini pour moi. Pietrov a dit vrai. Mieux eût valu la voir seulement au théâtre. Mais qu'est-ce donc que vous avez fait ? Demanda Delessoff. Oh, attendez, attendez. Je ne puis pas raconter cela. Se cachant le visage entre ses mains, il demeura quelques instants silencieux. Mais voilà, j'étais arrivé trop tard à l'orchestre. Nous avions bu ce soir-là, moi et Petrov, et j'étais un peu abattu. Elle était assise dans sa loge et causait avec un général. Je ne sais qui était ce général. Elle était assise près du bord même de la rampe. Elle avait une robe blanche avec des perles au cou. Elle parlait avec lui et me regardait. Deux fois, elle me regarda. Sa coiffure était comme ceci, et je ne jouais pas, mais je demeurais debout près de la basse et regardais. Alors, pour la première fois, quelque chose d'étrange se passait en moi. Elle souriait au général et me regardait. Je sentais qu'elle parlait de moi. Je m'aperçus tout d'un coup que je n'étais plus à l'orchestre, mais dans sa loge, et que je tenais sa main, voilà, comme ceci. « Mais qu'était-ce donc ?» demanda Albert, qui se tut un moment. « C'était l'ardeur de l'imagination, » dit Delessoff. « Non, 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 mais je ne saurais vous dire, » répondit Albert en fronçant les sourcils. « Alors déjà, j'étais pauvre, je n'avais pas de logis, et quand j'allais au théâtre, il m'arrivait parfois d'y passer la nuit. » « Comment, au théâtre, dans la salle obscure, vide ?»« Oh, je n'ai pas peur de ces niaiseries-là. Ah, attendez. » Dès que tout le monde était parti, j'allais dans cette baignoire où elle se tenait assise et je dormais là. C'était ma seule joie. Quelle nuit j'y passais! Ce même rêve me revint encore. La nuit évoquait dans mon esprit bien des images que je ne peux pas vous raconter. Albert, en abaissant les yeux, regarda Delessor. Mais qu'était-ce donc? Demanda-t-il. C'est étrange, dit Delessoff. Non, non, attendez, attendez. Il continua, lui parlant à l'oreille et chuchotant. Puis je baisais sa main, je pleurais auprès d'elle, je lui parlais longtemps, je sentais l'odeur de son parfum, j'entendais sa voix. Oh, elle me disait beaucoup de choses en une nuit. Puis je prenais mon violon et commençais à jouer doucement, et je jouais très bien. Mais cela me devint insupportable. Je n'ai pas peur de ces sottises. Je n'y crois pas, mais cela devint insupportable pour ma tête, dit-il en souriant et en touchant légèrement son front. Cela devint insupportable pour ma pauvre raison. Il me semblait que quelque chose se passait dans ma tête. Peut-être tout cela n'était-il rien. Qu'en pensez-vous? Tous les deux se turent un peu. Und fen die Folgen sie verhüllen, die Sonne bleibt doch etwas, chanta Albert en souriant doucement. N'est-il pas vrai? Ajouta-t-il. Ich auch habe gelebt und genossen. Ah, le vieux Petrov, comme il m'expliquerait tout cela? Delessoff, sans parler, regarda avec effroi la figure agitée et pâle de son interlocuteur. Connaissez-vous la Justenwalze? S'écria tout à coup Albert. Et sans attendre la réponse, il se leva vivement, saisit le violon et se mit à jouer la valse joyeuse. S'oubliant tout à fait, et convaincu visiblement qu'un orchestre entier l'accompagnait, Albert souriait, se remuait, trépignait et jouait excellemment. Eh, c'est s'amuser, dit-il en finissant et en brandissant son violon. J'irai, dit-il, après être demeuré quelque temps assis en silence. Et vous n'irez pas? Où? Demanda Delessov étonné. Mais retournons chez Anna Ivanovna. On y mène joyeuse vie, du bruit, du monde. De la musique. Delessov consentit presque dans le premier moment. Cependant, en revenant à lui, il se mit à dissuader Albert d'y retourner ce soir-là. Seulement une minute. Non, je vous en conjure, n'y allez pas. Albert soupira et déposa le violon. Restez alors? Il regarda encore sur la table. Il n'y avait plus de vin. Et après avoir souhaité une bonne nuit, il sortit. Delessov sonna. Prends bien garde, ne laisse aller nulle part. Monsieur Albert, sans ma permission, dit-il à Zahar. Le lendemain était un jour de fête. Delessov, s'étant levé, était assis dans son salon devant son café et lisait un livre. Albert ne revenait pas encore dans la pièce voisine. Zakhar ouvrit discrètement la porte et regarda dans la salle à manger. Croyez-vous, Dimitri Ivanovitch, il est couché sur le divan nu. Il n'a rien voulu étendre sous lui. Ma foi, c'est comme un petit enfant, mais je vous assure, c'est un artiste. Vers midi, on entendit derrière la porte un gémissement et un bruit de toux. Zakhar sortit de nouveau dans la salle à manger et le baryn perçut la voix caressante de Zakhar. Et la voix faible, suppliante d'Albert. Eh bien, demanda le baryn à Zahar lorsqu'il fut de retour. Ben, il s'ennuie, Dimitri Ivanovitch. Il veut pas faire sa toilette. Il est tout sombre. Il demande toujours quelque chose à boire. Non, puisque j'ai commencé, il faut aller jusqu'au bout. Et après avoir donné l'ordre de ne pas apporter de vin aux musiciens, il reprit son livre, non sans prêter cependant l'oreille à ce qui se passait dans la salle à manger. Rien n'y bougeait. Seulement, à de rares intervalles, on entendait une pénible toux et des crachements. 2 heures environ se passèrent de la sorte. Delassov s'habilla et, avant de partir, se décida à rentrer un moment chez son locataire. Albert se tenait assis, immobile, près de la fenêtre, la tête baissée entre ses deux mains. Son visage était jaune, plissé, et non seulement triste, mais profondément malheureux. Il essaya de sourire en manière de bienvenue, mais sa physionomie prit une expression encore plus désolée. Il semblait tout près de pleurer. Il se leva péniblement et salua. « Oh, s'il était possible, un petit verre de vodka, » dit-il d'un ton suppliant. « Je suis si faible, je l'en prie. » « Le café vous réconfortera bien mieux, je vous le recommanderai. » Le visage d'Albert perdit tout à coup son expression enfantine. Il regarda par la fenêtre d'un œil froid et terne et s'affaissa sur sa chaise. « Ne voulez-vous pas déjeuner, plutôt ?»« Non, je vous remercie, je n'ai pas d'appétit. »« Si vous vouliez jouer du violon, vous ne me gêneriez pas, » dit Delassov en posant l'instrument sur la table. Albert considéra le violon avec un sourire de mépris. « Non, je suis trop faible. Je ne puis pas jouer, » dit-il, en le repoussant loin de lui. Après, quoi que lui dit Delassov, lui proposant de faire une promenade, d'aller le soir au théâtre, il se borna à saluer humblement et se tut obstinément. Delassov partit, rendit quelques visites, dîna dehors et avant le théâtre, passa chez lui pour changer de vêtements et savoir ce que devenait le musicien. Albert était assis dans l'antichambre obscure et, s'accoudant, regardait dans le poêle allumé. Il était vêtu proprement, lavé, peigné, mais ses yeux étaient troubles, morts, et toute sa physionomie exprimait une faiblesse, un épuisement encore plus grand que le matin. « Eh bien, avez-vous dîné, monsieur Albert ?» interrogea Delassov. Albert fit de la tête un signe affirmatif, et après avoir regardé dans le visage de Delassov, baissa craintivement les yeux. Delassov se sentit confus. « J'ai parlé de vous aujourd'hui au directeur, » dit-il en baissant aussi les yeux. « Il sera très content de vous prendre, si vous lui permettez de vous entendre. » « Non, je vous remercie, je ne peux pas jouer, » répondit doucement Albert. Et il rentra dans sa chambre en refermant la porte sans bruit. Au bout de quelques minutes, le bouton de la porte tourna non moins doucement et Albert ressortit de sa chambre avec le violon. Il le posa sur une chaise, après avoir effleuré Delassov d'un regard méchant, et se déroba de nouveau. Delassov haussa les épaules et sourit. « Mais que dois-je encore faire? En quoi suis-je coupable » pensa-t-il. « Eh bien, et le musicien ?» Telle fut sa première question en rentrant chez lui assez tard. « Mal, » répondit Zahar avec douceur et d'une voix sonore. « Il soupire toujours, tous, et ne dit rien. Il a demandé 4 ou 5 fois de la vodka. » Je voulais donner un verre, sans quoi nous risquerions de le faire mourir, Dimitri Ivanovitch. C'est comme l'intendant. Bon, et il ne joue pas du violon, il ne touche même pas. Je lui ai apporté 2 fois, il l'a pris tout doucement et l'a porté dehors, répondit Zahar, souriant. Alors vous voulez toujours pas qu'on lui donne à boire? Non, non, attendons encore un jour, nous verrons ce qu'il adviendra. « Et à présent, comment va-t-il ?»« Il s'est enfermé dans le salon. » Delassov passa dans son cabinet, choisit quelques livres français et un évangile en allemand. « Il déposera ses livres demain dans sa chambre. Et prends garde, ne le laisse pas sortir, » dit-il à Zahar. Le lendemain matin, Zahar rapporta un baril que le musicien n'avait pas fermé l'œil de toute la nuit. Il avait passé son temps à se promener dans sa chambre et de sa chambre au buffet, essayant d'ouvrir l'armoire et la porte. Mais grâce à lui, Zakhar, tout était bien fermé. Le domestique ajouta que, tout en feignant de dormir, il avait entendu Albert marmotter, il ne savait pas quoi, et s'agiter ses bras. Albert devenait chaque jour plus sombre et plus taciturne. Il semblait qu'il eût peur de Delessov, et dans sa physionomie se lisait un effroi maladif lorsque les yeux se rencontraient. Il ne touchait ni aux livres ni au violon et ne répondait pas aux questions qu'on lui posait. Le troisième jour que le musicien demeurait chez lui, Delessov rentra au logis tard dans la soirée, fatigué et énervé. Il avait couru toute la journée à solliciter pour une affaire qui lui semblait simple et facile, et comme il arrive souvent, on n'avait absolument rien obtenu, malgré des efforts inouïs. De plus, en passant devant le club, il était entré et avait perdu au whist. Il était de fort mauvaise humeur. « Eh bien, Dieu soit avec lui !» répondit-il à Sahar, qui venait de lui exposer le triste état d'Albert. « Demain, je chercherai à obtenir de lui, décidément, s'il veut ou non, rester chez moi et suivre mes conseils. Sinon, je ne le retiendrai plus. Il me semble que j'aurais fait pour lui tout ce que je pouvais. » « Voilà, pensa-t-il, fait du bien aux gens. Je me gêne pour lui, je garde chez moi cet être sale, si bien que le matin je ne peux pas recevoir un inconnu. Je me mets en peine, je cours, et lui, il me regarde comme un scélérat qui, pour son plaisir, l'enferme dans une cellule. Et surtout, il ne veut pas faire un seul pas pour lui-même. Ils sont tous ainsi. » Ce « tous » visait tous les hommes en général et en particulier ce à qui il avait eu affaire dans la journée. Et que se passe-t-il en lui à présent? Mais qu'est-ce qui l'inquiète, elle désole? Il regrette la dépravation à laquelle je l'ai arraché, la misère dont je l'ai sauvé. Apparemment, il est si abaissé qu'il lui est difficile d'envisager une existence honnête. Non, c'était là un enfantillage, décida par soi de Delessov. Et puis je m'agirai de corriger autrui, quand on a déjà tant de mal et de peine à se corriger soi-même. Il voulait le laisser aller tout de suite, mais, réflexion faite, il remit jusqu'au lendemain. Pendant la nuit, le fracas d'une table renversée dans l'antichambre, un bruit de voix et de trépignement réveillèrent Delessov. Il alluma la bougie et se mit à écouter avec étonnement. « Attendez, je le dirai à Dimitri Ivanovitch !» disait Zahar. La voix d'Albert éclatait, ardente et incohérente. Delessov se leva brusquement et, la bougie à la main, sortit vivement dans l'antichambre. Zahar, en chemise de nuit, était debout contre la porte. Albert, en chapeauillant par-dessus, le repoussait de la porte et criait d'une voix larmoyante: « Vous ne pouvez pas me retenir, j'ai un passeport, j'ai rien pris chez vous, vous me fouillez, j'irai trouver le maître de police. »« Permettez, Dimitri Ivanovitch, » dit Zahar en s'adressant aux barines et en continuant à tenir la porte avec son dos. « Il s'est levé pendant la nuit, il a trouvé la clé dans mon paletot et a bu un carafon entier de liqueur. Est-ce bien ?» Et maintenant, il veut s'en aller. Vous n'en avez pas donné l'ordre. Je peux donc même pas le laisser partir. » Albert, en apercevant Delessov, se mit à presser Zahar avec plus d'acharnement encore. « Personne ne peut me retenir. On n'en a pas le droit !» criait-il en élevant la voix de plus en plus. « Retire-toi, Zahar, » dit Delessov. « Mais je ne veux pas vous retenir, ni ne le peux. Mais je vous conseillerais de demeurer jusqu'à demain. » fit-il en se tournant vers Albert. Mais personne ne peut me retenir. J'irai trouver le maître de police, vociférait le musicien de plus en plus fort, en s'adressant à Sahar seul et sans regarder Delessov. Au secours! Cria-t-il soudain d'une voix furieuse. Et pourquoi hurlez-vous de la sorte? On vous retient pas, dit Sahar en ouvrant la porte. Albert cessa de crier. Ah, « Vous n'avez pas réussi. Vous vouliez me faire mourir. »« Non, » grommelait-il en par lui, en mettant ses galoches. Sans dire adieu et toujours bégayant des paroles vides de sens, il franchit le seuil. Sahar l'éclaira jusqu'à la porte cochère et revint. Dieu merci, Dimitri Ivanovitch. Autrement, il serait arrivé quelque malheur, dit-il aux marines. Et maintenant, il faut vérifier la vaisselle plate. Delessol se borna à secouer la tête et ne répondit rien. À cette heure, le souvenir lui revenait dans toute son intensité des deux premières soirées qu'il avait passées avec le musicien, puis de ces dernières journées si tristes qu'Albert avait traînées ici par sa faute à lui de l'Essoff. Et surtout, il se rappelait ce doux sentiment mêlé d'étonnement, d'amour et de compassion qu'avait excité en lui dès le premier regard cet homme étrange. Et il le regrettait. Et que va-t-il devenir à présent, pensait-il, sans argent, sans vêtements chauds, seul au milieu de la nuit? Il voulait même envoyer Zahar à sa recherche, mais il était trop tard. « Est-ce qu'il fait froid dehors ?» demanda-t-il. « Une grande gelée, Dimitri Ivanovitch, » répondit Zahar. « J'ai oublié de vous dire qu'il faudrait encore acheter du bois avant le printemps. » « Et pourquoi m'as-tu dit qu'il en restait encore ?» Il faisait en effet bien froid dehors, mais Albert ne le sentait pas, tant le vin bu et la dispute l'avaient échauffé. En mettant le pied sur le pavé, il regarda autour de lui et se frotta joyeusement les mains. La rue était vide, mais une longue rangée de réverbères l'éclairait encore de leur lumière rouge. Le ciel était clair et plein d'étoiles. « Quoi ? » dit-il en se tournant vers la fenêtre éclairée du logis de Delessov. Mettant par-dessous son paletot, les mains dans les poches de son pantalon, se penchant en avant, Albert s'en alla d'un pas pesant et incertain par le côté droit de la rue. Il se sentait aux jambes et à l'estomac une grande lourdeur. Dans sa tête, quelque chose faisait du bruit. Une force invincible jetait de côté et d'autre. Mais toujours, il marchait en avant dans la direction de la maison d'Anna Ivanovna. Dans sa cervelle se heurtaient d'étranges, d'incohérentes pensées. Il se remémorait tantôt sa dispute avec Zahar, tantôt, il ne savait pourquoi, la mer et sa première arrivée en Russie, par le bateau à vapeur, tantôt un motif familier commençait à chanter dans son imagination, et il se rappelait l'objet de sa passion et la terrible nuit du théâtre. Mais, malgré leur incohérence, tous ces souvenirs se représentaient dans son esprit avec une telle clarté qu'en fermant les yeux, il ne savait pas ce qui était le plus réel de ce qu'il faisait ou de ce qu'il pensait. Comment ses pieds se déplaçaient, comment en vacillant il se heurtait contre les murs, comment il regardait autour de lui et passait d'une rue dans l'autre, il n'en avait ni la conscience ni le sentiment. Il ne voyait, ne sentait que les images qui, se succédant d'une manière fantastique et se confondant, s'offraient dans sa mémoire. En passant par la rue Malaya Moskaya, Albert fit un faux pas et tomba. Il revint à lui pour un instant et aperçut devant lui une grande et superbe maison. Il reprit sa route. Au ciel, on ne voyait ni les étoiles, ni la rougeur de l'aurore, ni la lune. Plus de réverbères non plus. Mais tous les objets s'accusaient clairement. Aux fenêtres d'un bâtiment qui se dressait au bout de la rue, des lumières brillaient, mais ces lumières vacillaient, pareilles à des reflets. Ce bâtiment allait grandissant, de plus en plus proche, de plus en plus lumineux devant Albert. Ses clartés s'évanouirent dès que le musicien eut franchi la large porte. Il faisait sombre à l'intérieur. Des pas solitaires résonnaient avec bruit sous les voûtes, et des ombres s'enfuirent en glissant à son approche. « Mais pourquoi suis-je venu ici ? » pensait-il. Mais une puissance irrésistible le poussait en avant vers les profondeurs de la salle. Là se dressait une espèce de tribune, et tout autour des gens se tenaient debout et muets. « Qu'est-ce qui va parler ?» demanda Albert. Personne ne répondit. Seulement l'un d'eux lui indiqua la tribune, où se trouvait déjà un grand homme maigre, aux cheveux rigides, comme des soies de porc, en robe de chambre bariolée. Albert reconnut aussitôt son ami Pietrov. « Il est étrange qu'il soit ici, » pensa-t-il. « Non, frère, » disait Pietrov en le désignant, « vous n'avez pas compris cet homme qui a vécu parmi vous. Vous ne l'avez pas compris. Ce n'est pas un artiste vénal. Ce n'est pas un virtuose mécanique. Ce n'est pas un fou. Ce n'est pas un homme perdu. Lui, c'est un génie, un grand génie musical, confondu, perdu parmi vous. » Albert comprit tout de suite de qui parlait son ami. Mais, désireux de ne pas le gêner, il baissa la tête par modestie. « Lui, comme un brin de paille, il est consumé par ce feu sacré que tous nous adorons, » continuait la voix. « Il a développé tout ce que Dieu avait déposé en lui, et c'est pourquoi on doit l'appeler un grand homme. Vous avez pu le mépriser, le torturer, l'humilier, » poursuivait la voix de plus en plus vibrante. « Mais lui, il fut et sera incomparablement supérieur à vous. Il est heureux, il est bon. Il aime et ne méprise tout le monde indifféremment. Qu'importe. Mais il n'a cultivé que le don qui lui venait du ciel. Il n'aime qu'une seule chose, le beau, le seul et indubitable bien du monde. Oui, voilà ce qu'il est. Tombez tous devant lui, la face contre terre. À genoux ! Cria-t-il d'une voix forte. Mais une autre voix commença à parler doucement dans le coin opposé de la salle. « Je ne veux pas tomber à genoux devant lui, » disait cette voix, dans laquelle Albert reconnut aussitôt la voix de Delessov. « En quoi donc est-il grand ? Et pourquoi s'incliner devant lui ? Est-ce qu'il a mené une vie honnête et juste ? Est-ce qu'il a rendu du service à la société ? Ne savons-nous pas qu'il a emprunté de l'argent et ne l'a pas rendu, qu'il a emporté le violon de son ami et l'a mis en gage? Oh mon Dieu, comme il sait tout, pensait Albert en baissant encore plus la tête. Ne savons-nous pas qu'il a flatté les pires gens, qu'il les a flattés pour de l'argent, continua Delessov. Ne savons-nous pas qu'on a dû le chasser du théâtre? Anna Ivanovna a voulu le livrer à la police. Oh mon Dieu, tout cela c'est vrai, mais protège-moi, dit Albert. Toi seul, tu sais pourquoi j'ai fait cela.
Cessez, ayez honte, parla de nouveau la voix de Pietrov. De quel droit l'accusez-vous? Est-ce que vous avez vécu de sa vie? Avez-vous éprouvé ses extases?
Oh, c'est vrai, murmura Albert. L'art est la suprême manifestation de la puissance humaine. Il n'est donné qu'à de rares élus, et il les élève à une hauteur vertigineuse, où la tête tourne, où il est difficile de garder toute sa raison. Dans l'art, comme dans toute lutte, il y a des héros qui se sacrifient à leur idée, et qui meurent sans atteindre leur but. Pietrov se tut. Albert releva la tête et cria tout haut. « C'est vrai, c'est vrai !» Mais sa voix ne put articuler aucun son. « Cela ne vous regarde pas, » lui dit sévèrement Pietrov. « Oui, humiliez-le, méprisez-le, » continua-t-il. « Mais de nous tous, c'est lui le meilleur et le plus heureux. » Albert, qui avait écouté ces paroles, le bonheur dans l'âme, n'y put tenir davantage. Il s'approcha de son ami et voulut l'embrasser. « Va-t'en, je ne te connais pas, » répondit Pietrov. « Passe ton chemin, autrement tu n'arriveras pas. »« Vois-tu dans quel état tu es, tu n'arriveras pas !» cria un soldat de police au coin d'un carrefour. Albert s'arrêta un moment, rassembla toutes ses forces et en s'efforçant de ne pas vaciller, enfila une ruelle. Quelques pas seulement le séparaient de la maison d'Anna Ivanovna. Du vestibule, une clarté tombait sur la neige de la cour et près du guichet stationnaient des traîneaux et des voitures. En s'accrochant à la balustrade avec ses mains toutes froidies, il gravit les marches et sonna. La figure endormie d'une servante apparut dans l'ouverture de la porte. Elle regarda Albert d'un air irrité. « On peut pas !» cria-t-elle. « On m'a pas donné l'ordre de vous laisser entrer !» Et elle referma la porte avec bruit. On entendait de l'escalier des sons de musique et des voix de femmes. Albert s'assit sur le seuil, s'appuya contre le mur et ferma les paupières. Au même instant, une foule de visions incohérentes, mais non sans lien entre elles, l'entourèrent avec une force nouvelle, le prirent dans leurs ondes et l'emportèrent là-bas, quelque part, dans le domaine libre et merveilleux des visions. « Oui, c'est lui le meilleur, le plus heureux !» Voilà ce qui involontairement chante dans son imagination. Derrière la porte résonnent des airs de polka. Ils disent aussi, ces airs-là, que c'est lui le meilleur, le plus heureux. À l'église voisine, les cloches tintent, et ce tintement dit encore « Oui, c'est lui le meilleur et le plus heureux. » « Mais je vais retourner dans la salle, » pense Albert. « Pietro a sans doute beaucoup de choses à me dire encore. » Dans la salle, plus personne. Et au lieu de Pietrov, c'est Albert lui-même qui est à la tribune. Albert jouant sur le violon, tout ce que la voix disait auparavant. Mais le violon est d'une étrange construction. Il est tout en verre. Il faut l'étreindre des deux mains et le presser contre la poitrine pour qu'il rende des sons. Et ils sont si tendres, si suaves, ces sons, qu'Albert n'a jamais rien entendu de pareil. Plus fortement contre son sein, il presse l'instrument, plus il se sent consolé et heureux. Plus haut vibrent les sons, plus vite courent les ombres, et plus s'illuminent d'une lumière transparente les murs de la salle. Mais il faut manier l'instrument avec des précautions infinies pour ne point le briser. Albert joue du violon en verre, avec une délicatesse extrême et merveilleusement bien. Il joue des choses que personne, il le sent, n'entendra jamais plus. Il commence déjà à se sentir fatigué. Quand un autre son, lointain et sourd, le distrait. C'est le son d'une cloche. Mais voici ce que dit la cloche. « Oui, » dit sa voix venue de loin de haut, « il vous semble misérable, vous le méprisez, mais c'est lui le meilleur, le plus heureux. Personne, jamais plus, ne jouera de cet instrument. » Ces paroles familières semblèrent si angéliques, si nouvelles et justes à Albert, qu'il cessa de jouer, et en s'efforçant de ne pas remuer, leva les bras et les yeux vers le ciel. Il se sentait beau et heureux. Bien qu'il n'y eût personne dans la salle, Albert redressa sa poitrine et, relevant fièrement la tête, se campa à la tribune de manière que tous puissent le voir. Soudain, une main le toucha légèrement à l'épaule. Il se retourna et, dans le demi-jour, il reconnut une femme. Elle le regardait tristement et secouait la tête négativement. Il comprit aussitôt que ce qu'il faisait était mal, et il eut honte de lui. « Où alors ?» lui demanda-t-il. Elle le regarda encore une fois, longuement et fixement, puis baissa tristement la tête. C'était celle qu'il aimait. C'était elle, et sa toilette était la même. À son cou rond et blanc, un rang de perles étincelait, et ses bras charmants étaient nus jusqu'au-dessus du coude. Elle lui prit la main et le mena hors de la salle. « Mais la sortie est de l'autre côté !» lui dit Albert. Mais elle, sans répondre, sourit et le fit sortir de la salle. Sur le seuil, Albert aperçut la lune et de l'eau. Mais l'eau n'était pas en bas, comme à l'ordinaire, et la lune n'était pas en haut. Un cercle blanc quelque part dans le ciel, comme à l'ordinaire. La lune et l'eau étaient confondues et partout dépendues. Et en haut et en bas et autour des deux amants. Albert se précipita avec elle dans la lune et l'eau. Il comprit qu'il pouvait maintenant embrasser celle qu'il aimait plus que tout au monde. Il l'embrassa et éprouva une béatitude insupportable. Mais n'est-ce pas un songe? Se demandait-il. Mais non, c'était la réalité. C'était plus que la réalité. C'était la réalité et le souvenir. Il sentait que cette ineffable extase dont il jouissait actuellement était passée et ne viendrait jamais. Alors pourquoi pleurais-je? Lui demandait. Elle le regarda silencieusement, tristement. Albert comprit ce qu'elle voulait dire par ce regard. Mais comment, puisque je suis vivant? Dit-il. Elle, sans répondre, regarda fixement en avant. Mais c'est affreux, mais comment lui expliquer que je suis vivant? Pensait-il avec épouvante. Oh mon Dieu, mais je suis vivant! Comprenez-moi, murmura-t-il. C'est lui le meilleur et le plus heureux, fit une voix. Mais quelque chose de plus en plus oppressait Albert. Était-ce la lune et l'eau, l'étreinte de la bien-aimée ou des larmes? Il ne le savait pas. Mais il sentait qu'il ne disait pas ce qu'il lui fallut dire, et que bientôt tout allait finir. Deux invités sortant de chez Anna Ivanovna se heurtèrent contre Albert étendu sur le seuil. L'un d'eux se retourna et appela la maîtresse de maison. Mais c'est inhumain, dit-il, de laisser ainsi geler un homme. Oh, toujours cet Albert, mais j'en ai assez, répondit-elle. Annouchka, mettez-le quelque part dans une pièce, dit-elle à sa servante. Mais je suis vivant! Pourquoi m'enterrez-vous? Murmura Albert, tandis qu'on l'emportait inerte dans l'intérieur de la maison. Fin.